Attention, attention, le podcast des petites frousses y contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
Bonjour et bienvenue aux petites frousses. Aujourd'hui, on fait des histoires de frousses. Mais pas comme d'habitude, c'est des histoires de frousse no sleep d'Internet. Et aujourd'hui, j'ai des invités avec moi pour faire ces histoires de frousse. Alors, je vous présente Simon Predge et Alex Perron.
Allô!
Allô!
Bonjour, je suis tellement contente de vous avoir ici. J'en reviens même pas que vous avez dit oui. Pincez-moi quelqu'un. Deux fanatiques d'horreur. Mais non, mais tu sais, c'est quand même... vous êtes un duo un peu improbable, mais ça prend tout son sens. Prime abord, moi...
En même temps, pas tant que ça, parce que Simon et moi, on adore l'horreur. Moi, c'est sûr que j'adore l'horreur de qualité. Simon, un peu moins.
je l'aime aussi, là, Alex.
Ben oui, je blague. Mais c'est là où on se rejoint. On aime autant la qualité que la série Z. Fait que on se rejoint à plusieurs endroits, vraiment.
Ouais, ben, c'est ça, la beauté. Puis, tout prend son sens. Moi, j'ai vu une photo, je pense que c'est Simon qui avait publié de vous deux ensemble. Puis là, je me disais, hein, quel contexte, je comprenais pas trop. Puis là, j'ai compris que c'était pour Frisson TV, c'est ça?
Oui, exact. J'ai reçu TV. Alex comme invité à mon émission sur Frisson.
Ah, voilà, c'est ça. Puis après ça, j'ai écouté sous écoute. Je pense que c'était Pierre-Luc Funk avec Phil Roy qui parlait comme quoi Alex était un fan d'horreur. Puis là, les fils se sont touchés. Puis je t'ai écrit à minuit le soir. Hey, ça te tente
oui, voilà.
À mon podcast? Un peu comme un boutique-hall. Puis tu as dit oui. Puis après ça, j'ai demandé à Simon. Et voilà.
Mais en fait, je trouve que des podcasts d'horreur, il n'y en a quand même pas tant que ça. Dès que j'ai une invitation, je me garoche parce que je me retrouve à jaser d'horreur avec des gens qui aiment ça, eux autres aussi. J'ai rien contre les autres podcasts, mais à un moment donné, parler de ma carrière, je trouve qu'on a fait le tour à un moment donné. Tandis que là, l'horreur, tu sais, moi, je trouve qu'il y a tellement de trucs à dire. Bref, j'étais bien contente de recevoir l'invitation.
Ah, ben là, je suis contente, moi, de même. Et Simon aussi, qu'on ne voit pas tant faire des collabs, tu vois, ou...
Ah, oh, ben c'est parce que moi, j'étais un peu moins content d'être invité ici, là, mais bon... non.
On peut raccrocher!
Ben non, au
ça
contraire.
Peut se terminer.
Ben moi, je pense que je fais juste moins de collabs parce que Ars Moriendi s'y prête moins un peu. C'est plus complexe. Fait que moi, j'invite pas beaucoup parce que je sais pas où rentrer les collaborateurs. Mais je refuse jamais une invitation, moi. Si je suis disponible, je vais être là.
C'est facile.
Ben oui.
Comme une pute à 5 piastres. On aime ça. Ben oui, c'est ça! Est-ce que vous saviez un peu c'est quoi No Sleep avant que je vous en parle? J'avais-tu dit que c'était No Sleep de Reddit? Je vous en avais-tu parlé?
Non, je ne savais pas que No Sleep, tu parles du podcast?
Non, No Sleep, le subreddit, d'où ça part.
OK, je ne suis pas un lecteur de Reddit, ben.
Ah, oh, ben là, je vais vous expliquer c'est quoi. Vous connaissez Reddit un peu, je pense?
Oui.
Bon, mais je vais l'expliquer si jamais quelqu'un ne sait pas c'est quoi. Donc, Reddit, c'est un site ou une application de discussion. Puis on y retrouve de tout, autant des nouvelles, des textes, des images, n'importe quoi. N'importe qui peut publier puis commenter. Sur Reddit, il existe des subreddits avec des thèmes spécifiques. Quelqu'un peut autant partager ses œuvres d'art que trouver un potentiel acheteur pour ses photos de pied. Tu sais, il n'y a pas de milieu. Et à travers tout ça... Il y a le subreddit No Sleep. Et No Sleep, c'est un endroit où les gens publient des histoires fictives d'horreur, mais écrit d'une façon à ce que ça donne l'impression, bien, c'est volontaire, là, qu'on pense que c'est écrit puis que c'est vrai, que c'est arrivé. Puis moi, j'aime bien ça, parce qu'en plus, dans les commentaires, les gens embarquent puis donnent des conseils, genre « Hey, j'ai tué ma femme, qu'est-ce que je fais? » Mais elle donne des vrais conseils. Je trouve ça bien glauque, puis j'aime bien ça.
Ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que c'est pas parce que tu n'es pas un auteur de fiction que tu peux pas avoir une bonne idée d'histoire. Après ça, tu l'écris au mieux de tes compétences, puis on s'amuse avec ça. Tu sais, des bonnes idées qui peuvent naître de ça. Là.
Oui, vraiment. Il y a du monde avec vraiment du talent qui sont là-dessus. Puis là, ben, vous avez justement une histoire, et j'en ai une moi aussi. Puis on va se faire la lecture. Mais là, j'ai une dure clientèle parce que vous êtes des fans connoisseurs de l'horreur. On va se faire de son mieux pour se faire au moins une mini-frousse, peut-être. On va essayer. Je pense que je vais commencer pour starter le bain. Qu'est-ce que vous en pensez?
Parfait. C'est bon, on te suit.
OK. Alors, le titre de l'histoire, c'est « J'ai trouvé une fermeture éclair sur ma nuque », écrit par Easy Misery. J'y vais, je me lance. Je l'ai trouvé par accident. J'attachais mes cheveux comme je le fais presque à tous les jours et ma main a accroché quelque chose à la racine de mes cheveux. J'ai d'abord pensé que c'était l'étiquette de mon chandail. J'ai pris mon téléphone pour tenter de mieux voir de quoi il s'agissait. Quand je l'ai enfin vu, j'étais incertaine. Ce n'était pas une tique ou quoi que ce soit d'étranger. C'était plus foncé que la teinte de ma peau. Quelque chose de gris-rose. J'ai nerveusement tendu la main vers ma nuque pour y toucher. C'était lisse comme du métal, mais c'était bel et bien de la chair. J'étais capable de le dézipper du haut en bas sans que ça me fasse mal. Ça aurait dû me faire mal. Depuis combien de temps cette fermeture éclair était-elle là? Une personne rationnelle aurait contacté son docteur ou n'importe qui, effectivement.
Oui, effectivement, bonne idée.
Mais non, je ressentais le besoin de l'ouvrir. J'ai baissé la fermeture, aucune douleur. Alors que je continuais de descendre, les petites dents de la fermeture éclair se sont mises à apparaître. Il n'y avait aucun sang. La peau se séparait facilement. Je savais que je devais arrêter, mes mains tremblaient plus je baissais la fermeture éclair. J'ai entendu mon mari se réveiller et j'ai couru pour fermer et verrouiller la porte de la salle de bain. Je ne voulais pas qu'il sache ce que j'étais en train de faire. Ça, c'est malaisant.
Oui, puis ça se camoufle tellement bien.
Oui,
c'est-à-dire, mais en faire, c'est-à-dire quoi? Oui. Regarder s'il y a un 20$ dedans comme des manteaux d'hiver auprès, à l'automne.
Non, mais les temps sont durs, c'est l'inflation quand même.
Ouais, oui, c'est ça. Sûr qu'il y a une poignée de change.
Exact.
Un petit 10 cents, là. Je voulais pas qu'il sache ce que j'étais en train de faire, exactement. C'est ce que je disais. Je savais que ce que je faisais était mal, oui. La fermeture éclair me faisait peur, mais ce qui se trouvait à l'intérieur me le faisait encore plus peur. J'ai entendu mon mari marcher vers la porte et tourner la poignée. « Laisse-moi rentrer, je dois faire pipi. » Il était à peine réveillé. « C'est occupé. »« Ben là, je peux pas aller faire un petit pipi vite fait. » J'ai refusé une deuxième fois. « Es-tu correct? » »« Oui, oui. » Un moment de silence s'en est suivi et j'ai entendu ses pas se diriger vers l'escalier. J'ai soupiré de soulagement. J'ai repris mon téléphone et j'ai jeté un coup d'œil au miroir. Un liquide noir s'était mis à couler du trou jusque dans mon dos. C'était trop foncé pour être du sang. La substance était chaude, collante et s'étirait entre mes doigts. Je l'ai approché près de mon visage pour pouvoir l'examiner. À travers ce liquide, on pouvait distinguer des petites lueurs dorées, un petit cosmos. Ça fait rire le petit cosmos, genre on dirait
ouais, pas un gros,
de la glu DIY.
Un
tout petit cosmos.
Un tout petit, pas un gros. C'est moins peur.
Un petit cosmos oui. De poche.
Un cosmos ouais, de zip. Oh, c'est tellement le cas. Max frappait contre la porte. Pourquoi tu ne me réponds pas? Mes yeux ont quitté mes mains et se sont dirigés vers la porte. J'étais restée comme ça depuis combien de temps? Arrête de m'ignorer, a-t-il dit. Je t'ignore pas. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Rien. J'ai senti son corps se frapper contre la porte. Il pleurait. Mon Dieu, la panique.
Ça passe vite du coq à l'âne.
Ben oui, c'est ça. Hein? Il a panique un peu vite, mais écoute, c'est sa vie, c'est correct.
Il cogne à la porte. Est-ce que je peux aller à la salle de bain? Soudainement, la maison est en flammes. Oui. Hop, 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 il nous manque un bout.
On a manqué un épisode, je pense.
Ouais, c'est ça.
Là, il dit, le chum, tu vas me punir pendant encore combien de temps? J'étais pas en train de le punir. Ce qui se passait avait aucun rapport avec lui. Pourquoi fallait-il toujours qu'il pense que tout le concernait? Je suis retournée au miroir encore une fois. J'ai continué à tirer sur la fermeture éclair. Le liquide noir était bien contenu à l'intérieur, mais quelques gouttes s'étaient échappées et coulaient dans mon dos. Quelque chose de large poussait sur ma colonne vertébrale. Je pouvais le voir, c'était comme un fœtus contre le ventre de sa mère. La pression rendait ma colonne et mon cou bossé. Il y avait quelque chose à l'intérieur, quelque chose qui devait sortir. J'ai continué à descendre la fermeture éclair. Elle était à mes épaules. Ah! Il semble que j'ai mal. J'ai mal pour cette personne.
Oui, mais elle a commencé en panique, c'est parfait.
Elle gère très bien son stress.
Oui,
vraiment.
Elle gère très bien son décolleté.
Ça doit être.
Voyons, qu'est-ce que
ça doit être un peu
ben ça s'ouvre.
Moi, je pense qu'elle a un petit collier pur noisettier. Puis écoute, elle est neutre, elle est zen, zen, zen.
Elle est zen, exact.
Voilà. J'ai commencé à entendre un bruit de gargouillement qui provenait de l'ouverture. Pendant une seconde, j'ai cru voir des araignées en sortir. J'ai cligné des yeux et elles avaient disparu. C'est génial. Bravo. Je ne m'étais jamais sentie si effrayée, si obsédée. Mes mains tremblaient tellement que j'avais de la difficulté à descendre à la fermeture éclair. Une main est sortie de l'ouverture, couverte de la substance noire. J'ai crié. La main a saisi le zipper. De l'autre côté de la porte, Max s'est fait entendre. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu blessé? Oui. Je suis tombée. Spoiler, oui.
Puis attends, t'es tellement tranquille, c'est probablement de même qu'elle a répondu. Oui.
Ouais, c'est ça.
Je suis tombée à genoux lorsque la main a tiré la fermeture éclair plus loin. C'était au niveau de mes omoplates, puis dans mon dos, puis dans le bas de mon dos. Ma peau était pelée comme un cocon. La main est retournée en moi. Au bout de quelques instants, une jambe est apparue, s'étirant hors de mon corps, puis une autre jambe. Une silhouette émergea complètement. Penchée par en arrière, les pieds maintenant sur le sol. Elle s'est redressée, les longs cheveux collés à son corps. J'ai rampé loin d'elle, terrifiée. Ma peau était encore ouverte et faisait jaillir la substance noire sur le sol. Je pouvais encore y voir le petit cosmos.
Bonne nouvelle! Il y a une bonne nouvelle là-dedans quand même.
Pour voir le positif, les petites
histoires. Exactement. Voilà.
Voilà. C'était une femme nue, trempée de ce liquide noir. Elle s'est penchée vers moi en souriant. « Encore une chose », a-t-elle dit, d'une voix que j'ai reconnue. Elle a tendu la main vers moi et a enfoncé sa main dans l'ouverture de mon dos. Pour la première fois, j'ai ressenti de la douleur. Sa main en moi était comme un couteau brûlant. J'ai essayé de retenir mes cris, mais je n'ai pas réussi. Ce moment-là m'a paru être une éternité. Finalement, quand je me suis sentie sur le point de m'évanouir, elle a enlevé sa main. Elle en avait sorti une hache. Mon Dieu, c'est un fourre-tout.
C'est une grande
madame.
Ben oui.
Moi, ça me rappelle Sport Billy. Là. Je ne sais pas si tu as connu ça, Alex.
Ah, mon Dieu!
Il y avait un sac de sport, puis il pouvait sortir ce qu'il voulait. Là.
Exactement. Un petit peu plus glauque, mais quand même.
une version différente. La hache était trop grosse pour se tenir en moi. Elle l'appuya sur son épaule, toujours souriante. J'ai entendu ma propre respiration. J'étais essoufflée. J'ai aussi entendu la voix de Max de l'extérieur de la porte. Il suppliait, il pleurait, il frappait, cognait. La silhouette l'a remarqué aussi et son visage s'est retourné vers la porte. Je savais ce qu'elle voulait faire. Je le savais. Parce que c'était ce que je voulais faire aussi. Fin.
Ah!
Écoute, c'est son soi intérieur.
Ben oui, mais c'est un gros souhait quand même.
Oui, effectivement.
On parle pas d'un manteau, là.
Non, mais c'est comme si, de ce que j'interprète, c'est que elle souhaitait, dans le fond, s'en prendre à son chum, mm-hmm. sûrement qu'il la lâchait pas, peut-être qu'il était abusif, on le sait pas trop, puis que son soi est ressorti puis s'est vengé.
Ouais, on peut voir ça comme ça. Ouais, une espèce de moi... le moi intérieur, mais qui vraiment, littéralement, sort de la personne.
Freud serait fier.
Oui, Freud serait fier. Ben, fier, je ne sais pas si... Je sais pas si Freud avait vu des petits cosmos, mais peut-être que ça...
Non, je pense pas.
Les petits cosmos de Freud.
c'est bien connu, voyons.
Ben oui, exactement.
En psycho. Psycho,
on dirait que ça sonne la nouvelle sorte de gâteau de Vachon, là. Les petits cosmos de Freud.
Ah oui, c'est ça!
Bientôt sur vos tablettes pour le temps des fêtes.
Avec un crémage noir.
Oh, j'adore! Mais j'ai bien aimé l'histoire. Ça aurait pu être mieux.
Moi, là, je suis convaincu qu'un jour, ça va arriver, ça. T'sais, on va découvrir que Sonia Benezra, finalement, là, c'est un costume et il y a trois aliens dedans. <là. rire>
Qui sait? Toutes nos stars sont peut-être des reptiliens à la base. Il y a de quoi à Hollywood du Québec, là.
Non, mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis c'est vrai qu'on a tous à l'intérieur de nous, pas une madame sombre et avec une masse. Mais tu sais, quand on dit notre personnalité intérieure, ce qu'on dit pas aussi. Tu sais, dans la vie, je peux bien vous raconter quelque chose, mais peut-être que j'en pense complètement l'inverse dans ma... Tu sais, cette espèce de jardin secret-là. Là, naturellement, c'est poussé dans l'horreur. Mais tu sais, il y a quand même un parallèle intéressant, tu sais.
Non, je trouve qu'à la base de l'histoire, il y a de quoi de vraiment cool. J'en aurais pris plus de détails. J'aurais aimé ça, mm-hmm. là, que son dézippage dure sur quelques jours. Mais tu sais, là, c'est une histoire courte.
Ça me fait penser à un film qui est d'ailleurs film québécois, mais indépendant, Thanatomorphose. c'est pas quelqu'un qui sort du corps, mais c'est quelqu'un qui pourrit. C'est l'histoire d'une femme qui pourrit tout en restant vivante. C'est pas exactement la même chose, mais c'est similaire. Là. Comme si tout le méchant essaie de sortir d'elle, finalement. Là. C'est, fait, si tu veux de quelque chose d'étalé sur plusieurs jours, peut-être je suggérerais Thanatomorphose, mais ouais, attention, c'est une bonne idée. C'est un film juteux.
Oui, oh, effectivement.
Ça sonne comme tel. Comme
ça.
Parfait. Ça pourrit bien. Ben, je pense aussi qu'on aurait peut-être mieux compris si on avait eu un peu plus... si on avait mieux compris c'est quoi sa relation avec ce chum-là qui est juste au bord de la porte. C'est beau de vouloir tuer son chum, mais ça prend des raisons qui vont avec ça.
Ça prend des raisons pour le meurtre.
Généralement.
Il nous manque une prémisse, on dirait, pour installer le personnage du chum. Ou sinon, peut-être que ça pourrait être plus clair à mesure qu'on avance. Je pense que le fait que l'auteur ou l'autrice voulait fait taper le chum dans la vide puis devient super agressif. C'était pas maîtrisé, ça. Je pense que ça... Je sais pas comment nécessairement, mais je pense que ça aurait pu être mieux amené, peut-être plus lentement, étirer ça un peu. Puis je pense que c'est ça le défi de tout auteur, c'est de trouver la phrase à faire dire à ton personnage qui va... c'est comme la phrase qui dit un chapitre au complet. Là. La phrase qui donne beaucoup de détails sans trop en dire. Là, c'est toujours un défi là, pour n'importe quel auteur, je pense. Là, c'est de
trouver
les bons mots. Là. Non, même dans ma vraie vie, hein, ça explique toutes mes ex, d'ailleurs.
Puis des fois aussi, l'histoire est claire dans notre tête, mais la personne qui la lit, si elle n'a pas tous les détails, c'est sûr que pour elle, il y en manque des bouts. T'sais,
exact.
Moi, je fais « Ah, j'ai pas besoin de rajouter ça parce que c'est clair dans ma tête où je veux m'en aller avec mon histoire, mes personnages, tout ça. » Mais la personne qui la lit, ben, je suis pas à côté pour y résumer la patente qui pourrait y manquer. Fait que des fois, je pense que c'est ça. Si on avait eu un petit peu plus de détails dans leur relation, puis effectivement, ça manque pas, ça n'aurait pas pris grand-chose. C'est juste de comprendre à quel point soit qu'il est violent ou peu importe, on comprend la dynamique parce que l'envie de vouloir assassiner son conjoint vient nécessairement avec une charge de quelque chose. T'sais.
Je pense qu'on aurait pu juste commencer l'histoire avec une mention que aujourd'hui, on s'est encore chicané. Ou juste quelque chose comme ça. Juste une petite, tu sais, qu'on comprenne dès le départ que leur relation ne va pas bien. Déjà, je pense que c'est la petite base.
Non, mais tu sais, on va y écrire à cet auteur-là ou cette autrice-là, on va y dire.
Non.
On va y dire,
regarde. Non, puis on est dans le détail. Moi, je l'ai apprécié, cette histoire-là, j'aime ça. Puis j'aimais, tu sais, le fait de dézipper comme ça aussi, tu sais, c'est un petit côté Hellraiser un peu, là, avec quelque chose, une seconde peau, quelque chose qui s'enlève, qui se pèle, tu sais. Moi, quand ça arrive dans un film, tu sais, quand c'est bien fait, c'est comme « wow! »
Ouais.
Mais tu vois, t'as un point, je pense que j'aurais préféré, bien, moi, je suis quelqu'un de visuel, hein, c'est pour ça que je suis un fan de cinéma, je me l'imagine tout le temps, puis je pense que j'aurais apprécié plus ou j'aurais embarqué peut-être plus si c'était ça, justement, au lieu d'être un zip, c'est un changement de peau comme un reptile, par exemple.
Effectivement. Parce que là,
on comprend que c'est reptilien, puis là, tu commences à te faire plein d'idées, puis finalement, enfin, oh, puis là, c'est pas ça du tout. Là, finalement, c'est juste son autre « elle », entre guillemets, qui ressort. Je pense que ça aurait pu être intéressant.
Bonne idée.
On se lance l'écriture après. On raccroche, puis on écrit quelque chose d'autre, on repart à zéro. Est-ce qu'on est prêt pour la prochaine histoire?
Ben oui, certainement.
Alors, qui? Moi, je vote que c'est Alex.
Tu veux dire Alex?
OK,
Alex?
Ben, je vais chercher mon iPad. Donne-moi 10 secondes.
On n'a rien vu aller.
Ouais.
Oh, il est de retour, mon Dieu.
Je suis de retour. Alors, donne-moi 2 secondes, j'ai oublié ça. Jaser pendant ce temps-là.
On fait une petite chanson de l'ascenseur.
Tout un week-end. Ah oui, une chanson.
OK, go.
C'est vrai que ça une chanson d'horreur.
Une colombe est partie.
Hey boy! On est vraiment dans l'horreur. On est
j'ai un loin. Amour qui ne veut pas mourir. Et c'est l'occasion de mes ravis.
Bon. On va l'avoir.
L'attente fait durer le plaisir, hein?
Mais oui, jaser pendant ce temps-là, ça me met moins de stress.
Parfait. Ben, Joannie, de quoi on pourrait jaser? Hey, on pourrait parler du stress d'Alex.
Ouais, c'est ça. Faites ça. Ça, d'ailleurs, j'adore ce genre d'histoire-là parce que là, je voulais retrouver le nom de l'auteur, puis finalement, je ne l'ai pas trouvé. Il y a un Français qui a écrit plein de livres sur les mystérieuses disparitions des gens. Il a fait En forêt aux États-Unis, sur l'eau, dans le triangle des Bermudes. Bref, plein d'histoires, super le fun. Ça m'a fait un peu penser à ça, donc j'étais bien, bien, bien contente.
C'est des fictifs que tu parles ou des vraies histoires?
Non, des vraies histoires. Ah! Puis lui, il essaie de soit de trouver l'explication, puis c'est parce qu'il y a des histoires qui datent, mettons, des années 80, 90, 2000. Puis, dans son analyse, en fait, en guillemets, et s'il y a eu des updates, s'il y a eu des trucs qui se sont découverts au cours des années, il les ajoute. Fait que c'est bien, bien, bien intéressant. Il y a comme,
je sais qui, mais le nom non plus.
Il y a comme 5-6 livres là-dedans. Fait que tu fais comme, Caroline, il y en a du monde disparu qu'on n'a pas trouvé.
Attends, je vais juste trouver le nom. C'est lui qui a genre Missing 411, je pense.
C'est ça? Et c'est un Français, bref, pas grave.
OK, non, c'est pas lui. OK, mais oui, oui, vas-y.
OK, merci. Alors, on est dans le mystère avec moi. Alors, je crois que ce sont de vraies histoires. Tu vois à quel point je suis naïf. Moi, j'ai pris pour acquis que tout était vrai là-dedans. Alors, c'est un gars qui écrit ça, qui travaille pour les services forestiers et qui, naturellement, a des histoires à raconter. Alors, ça va comme suit. Je suis agent pour des opérations de recherche et sauvetage pour le service forestier aux États-Unis. Je suis agent depuis quelques années déjà et au cours de mon parcours, j'ai vu des choses que je pense qui vont vous intéresser. J'ai une bonne histoire pour avoir trouvé des retrouvé des personnes disparues. La plupart du temps, ils s'écartent des sentiers ou ils tombent dans des petites falaises.
Des petites cosmos, exactement.
Ou ils sont simplement pas capables de retrouver le sentier. La majorité d'entre eux ont déjà entendu dire qu'on doit rester où on se perd pour pas se perdre davantage. Puis il y a la plupart des gens qui appliquent ça. Par contre, j'ai deux cas où ce n'est pas arrivé. Ces deux cas particuliers me tracassent et je les prends souvent comme motivation pour continuer à chercher encore plus fort des personnes disparues quand j'ai des appels de sauvetage. Le premier cas. C'était un petit garçon qui était parti faire de la cueillette de petits fruits avec sa famille. Lui et sa sœur étaient ensemble et ils ont disparu. Leurs parents les ont perdus de vue pendant quelques secondes et c'est à ce moment-là que les deux enfants se sont égarés. Quand les parents ne les trouvaient plus, ils nous ont contactés et nous avons débuté nos recherches. Nous avons trouvé la fille assez rapidement et quand nous avons demandé où était son frère, elle nous a dit qu'il avait été emmené par l'homme ours.
Ouh.
D'ailleurs, je la connais, cette histoire-là, puis elle fait partie d'un des livres. Bref, donc, elle est vraie. Elle, ça, c'est vrai. Elle dit qu'elle lui avait donné ses baies et qu'il lui avait dit de se taire, qu'il voulait jouer avec son frère pendant un moment. La dernière fois qu'elle a vu son frère, il était monté sur les épaules de l'homme ours et il semblait calme. Évidemment, on pensait en premier que c'était un enlèvement, mais nous n'avons jamais trouvé la trace d'un autre être humain dans cette zone. La petite fille a également insisté sur le fait qu'il n'était pas un homme normal, mais qu'il était grand et couvert de poils comme un ours et qu'il avait un visage étrange. Nous avons fouillé cette zone pendant quelques semaines. C'est quand même pas rien. C'était l'une des opérations de sauvetage les plus longues auxquelles j'ai jamais participé. On n'a jamais trouvé la moindre trace du petit garçon.
Ah, mais là, c'est-tu moi ou c'est le origin story de Boucle d'or? Moi aussi, j'ai ça dans un livre, là. Parce que moi aussi, j'ai ça dans un livre quelque part ici.
Ouais, ben écoute!
On dirait que c'est l'autre côté de l'histoire, là, tu sais. On a toujours l'histoire de la petite fille, mais là, dans le fond, on a l'histoire des parents, là.
C'est ça, non, c'est l'autre version.
Non, mais imagine, là, tu retrouves la petite fille. Puis ce qu'elle raconte, c'est qu'ils ont joué avec l'homme ours quand même.
Ah non, ça, c'est fréquent pareil, là. Ben, tu sais, ça, c'est comme les histoires de fantômes où ton enfant, elle parle tout seul, tu vas voir, puis non, c'est Martine, puis tu apprends plus tard que Martine, c'est quelqu'un qui a été tué dans la maison avant.
T'sais, oui, c'est ça. Là. Exactement. Mais bref, tu sais, avec toutes les, mettons, le Sasquatch, le Bigfoot.
Ben oui, c'est ça, ça vient avec plein de questions, là. C'est un enfant, là, elle va te dire toutes sortes d'affaires, qu'est-ce qui est vrai, là. Mm-hmm. C'est un ours, un mélange des deux.
Ouais, c'est ça, puis si c'est un ours, tu vois ton petit frère qui est en train de s'amuser ses épaules d'un ours.
Moi, je te serais faire.
Ah ouais? Ah oui, OK. Ben écoute.
Concours de breakdance.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, ce genre d'affaires-là, tu sais, puis on dirait que, mais ça, c'est ma naïveté aussi d'imbécile, mais on dirait que quand. Non, mais quand c'est un enfant qui te raconte quelque chose, tu sais, nous autres, si on veut, si j'ai envie de vous monter un bateau, tu sais, je vais le faire. On dirait qu'un enfant, c'est plus dans l'espèce de naïveté de raconter vraiment ce qui s'est passé. Oui, il y en a des enfants qui sont capables de mentir. Oui, là, je ne suis pas aussi imbécile que ça. Mais tu sais, des fois, dans ce genre d'histoire-là, il me semble que j'étais un enfant. Raconterais la vraie affaire, tu sais.
Oui. Il y a comme un peu de côté candide.
Ouais, je sais pas.
Mais oui, candide, c'est le bon mot. D'ailleurs, traite-toi pas d'imbécile. Il y a du beau dans la naïveté. Il n'y a rien de mal dans l'envie de croire.
Exact.
En tout cas, je sais pas. Puis, tu sais, si t'es perdu, en plus, il me semble que tu sais, t'as pas. C'est pas comme si t'avais commis une faute, puis là, tu veux mentir pour dire comme, hey, c'était pas ça, je veux dire, c'est pas de ta faute, là. Mais bref, en tout cas. Deuxième cas. Alors, l'autre cas qui me perturbe est celui d'une jeune. Ça, c'est assez incroyable. L'autre cas est celui d'une jeune femme qui faisait de la randonnée avec sa mère et son grand-père. Selon la mère, sa fille aurait grimpé dans un arbre pour avoir une meilleure vue sur la forêt, ce qu'on fait tous, bien sûr, lorsqu'on est en randonnée. Et elle n'en serait jamais redescendue. La mère et le grand-père ont attendu au pied de l'arbre pendant des heures, l'appelant par son nom, avant d'appeler à l'aide. Encore une fois, on a cherché partout et nous n'avons jamais trouvé sa trace. Je n'ai aucune idée de l'endroit où elle aurait pu aller. Car ni sa mère, ni son grand-père, je le répète, ne l'ont vu descendre.
Hey, ça, c'est weird. Fucké. Mais si c'était un bébé, si, mettons, un bébé là, était capable de grimper un arbre, j'aurais dit qu'il s'est fait enlever par un aigle.
Ben oui!
Mais là, un enfant de 5-6 ans, là, l'aigle n'est pas capable de lever ça, d'après moi. Là. À quel âge, le petit, on sait-tu?
Ah oh non, c'est pas marqué, malheureusement.
Mais hey, c'est fucked up, ça.
Ben oui!
Je vais aller voir, je veux grimper dans l'arbre, puis il disparaît.
Ouais. Ben non, c'est ça!
Aïe, aïe!
Puis à quel point t'es haut, c'est un arbre, pour que je te vois plus, tu sais?
Ben là, c'est ça, les branches, là, voyons, ça, les branches, les feuilles, en plus, sont à l'extérieur de l'arbre. Quand t'es en dessous, là, tu vois jusqu'en haut, là.
Ben non, c'est ça, à moins que ce soit vraiment touffu comme arbre, puis que, tu sais, je veux dire, à grimpe solide, mais là, c'est rendu en haut, là.
Oui, mais c'est parce mais que les arbres trop touffus, tu peux pas grimper ça. T'as-tu déjà essayé de grimper un sapin, tu sais?
Ouais, c'est vrai.
C'est pas super ça prend des facile, d'acier. Là. Mais en tout cas, là, on s'entend, là, ça décompte, mais fascinant, par exemple, je trouve, c'est...
Ouais, moi aussi.
C'est hot, on... là, comme idée. J'aimerais ça voir ça, là. Non, mais j'aimerais ça le voir, mettons, dans un film ou d'une série.
Ouais, c'est ça.
C'est intéressante.
Puis en même temps, tu dis, Colin, on n'a jamais su si elle avait une belle vue rendue en haut, tu sais.
Ouais! C'est le plus choquant.
Mais non, c'est ça.
Ah ouais, d'un film, tu verrais même, tu aurais son sel qui tombe, puis elle a pris une photo mystérieuse.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ah ouais, mais c'est
en
vrai,
en cas, vous là. Une autre, finalement, il y en a plus que deux. En voulez-vous un petit ton? OK, parfait.
Ah ouais, d'accord.
Alors, c'est toujours ce même garçon. Il en a vécu des affaires, ce gars-là. Je ne sais pas dans quelle forêt il travaillait des États-Unis, mais bref. Alors, il dit, j'ai déjà fait équipe avec un autre officier parce qu'on recevait des rapports que des ours étaient dans la région. On recherchait un gars qui n'était pas rentré d'une randonnée d'escalade et on a fini par devoir faire nous-mêmes de l'escalade quand même extrême pour arriver là où on pensait qu'il serait. On l'avait trouvé piégé dans une petite crevasse avec une jambe cassée. Il était là depuis à peu près 2 jours et sa jambe était évidemment infectée. Nous avons réussi à le faire monter dans un hélicoptère et j'ai entendu dire par l'un des ambulanciers que le gars était absolument inconsolable. Il n'arrêtait pas de parler du fait qu'il allait bien et quand il est arrivé au sommet, un homme était là. Il a dit que l'homme n'avait pas d'équipement d'escalade et qu'il portait un manteau parka et un pantalon de ski. Il s'est approché de l'homme et quand il s'est retourné, il a dit qu'il n'avait pas de visage. C'était juste vide. Il a paniqué et a fini par essayer de descendre trop vite de la montagne. C'est pourquoi il est tombé et qu'il est tombé dans sa crevasse. Naturellement, eux autres, ils ont cherché l'autre homme toute la nuit et ils ne l'ont pas trouvé.
Non, mais il assume juste pas ses torts, dans le fond, c'est ce que je comprends.
Ouais, ouais, c'est ça, assume-le que t'es tombé, puis c'est pas grave.
C'était sûrement en max de la première histoire, là, tu sais.
Ça se peut.
C'est lequel qui est tombé de l'arbre?
Ah oui, c'est ça!
C'est la jeune fille qui...
J'adore ça. Au même moment, plus bas dans la falaise. Non, mais on rit. Alors, vas-y, Alex.
Non, mais tu vois, c'est là que je fais la différence entre un adulte qui nous raconte quelque chose et un enfant.
N'empêche, c'est un peu arrivé, ça. C'était pas un sans-visage, mais c'était un visage particulier. Je pense de mémoire que le personnage est surnommé le « Green Man ». Et c'est une vraie affaire. Là. C'est arrivé pour vrai. C'est-à-dire que les gens qui promenaient leur chien la nuit dans quelque part, peut-être aux États-Unis, je ne me souviens pas, mais une région rurale, je pense, ils sortaient leur chien la nuit puis ils tombaient nez à nez avec un monstre, c'est-à-dire un homme, mais avec un visage terrifiant dans la nuit. Puis à chaque fois, ils prenaient peur, retournaient à la maison en panique, juste à temps qu'ils découvrent que c'était bel et bien un homme, mais ce gars-là était une victime d'accident de la route.
Son visage
était complètement mutant, déformé. Vous allez voir la photo, c'est vrai que quand tu le sais pas, tu tombes là-dessus dans la nuit.
C'est sûr.
C'est terrifiant, mais ce gars-là était vivant, mais sortait juste la nuit pour pas faire peur aux gens.
Exact, puis pas échec. Ouais. Il a fait pire que ce qu'il voulait éviter.
Oui, finalement, exactement. Mais en même temps, vous. Regardez ça, je pense que c'est le Green Man.
Je vais aller voir, c'est sûr.
Certain, je suis intriguée.
Et j'aurais eu peur, moi aussi. Là. Tu veux dire, quand t'es pas averti et tu t'es emmené un ex gars-là, t'es comme tabarnak, c'est ça. c'est sûr que tu prends les jambes à ton cou. Là.
Hey, c'est sûr. En voulez-vous une petite dernière?
Ah oui, vas-y. Parfait. Raconte-nous tout ça.
Encore le même gars, toujours, dans ses fonctions de chercheur. Alors, l'une des choses les plus effrayantes qui me soit arrivée concerne la recherche d'une jeune femme qui s'était séparée de son groupe de randonneurs. On était restés dehors jusqu'à tard dans la nuit parce que les chiens avaient capté son odeur. Quand nous l'avons trouvée, elle était recroquevillée sous un grand tronc d'arbre pourri et lui manquait ses chaussures et son sac à dos. Et elle était clairement en état de choc. Elle n'a pas été blessée et on avait réussi à la faire marcher avec nous. Bon, Crème n'avait quand même pas ses souliers, en tout cas, bref. Ça, c'est un détail. elle n'était pas blessée, donc on a réussi à la faire marcher avec nous jusqu'au centre d'opération de la base. En cours de route, elle n'arrêtait pas de regarder derrière nous et de nous demander pourquoi ce grand homme aux yeux noirs nous suivait. On ne voyait personne, alors on a tout simplement considéré ça comme un étrange symptôme d'état de choc. Mais plus on se rapprochait de la base, plus elle devenait agitée. Elle n'arrêtait pas de me demander de dire à l'homme qui nous suivait d'arrêter de lui faire des grimaces. À un moment donné, elle s'est arrêtée et s'est retournée et a commencé à crier dans la forêt, disant qu'elle voulait qu'il la laisse tranquille. Elle criait qu'elle n'allait pas l'accompagner et qu'elle ne se donnerait pas à lui. Nous avons finalement réussi à lui faire continuer le chemin, mais nous avons commencé à entendre des bruits étranges qui venaient de tout autour de nous. C'était presque comme quelqu'un qui toussait, mais plus rythmé et plus profond. C'était presque comme un bruit d'insecte. Je ne sais vraiment pas comment le décrire autrement. Lorsqu'on est arrivé sur le site de la base, la femme s'est tournée vers moi. Ses yeux se sont ouverts aussi grands qu'humainement possible. Elle m'a touché l'épaule et elle m'a dit « Il me dit de te dire d'accélérer. Il n'aime pas regarder la cicatrice sur ton cou. » J'ai une très petite cicatrice à la base de mon cou, mais elle est cachée sous mon col de manteau et je ne sais pas comment cette femme-là a pu la voir. Juste après qu'elle ait dit ça, j'ai entendu cet tout bizarre juste dans mon oreille et j'ai presque sauté hors de ma peau. Je l'ai amené le plus vite possible à notre poste aux opérations en essayant de ne pas montrer à quel point j'étais paniqué, mais je dois dire que j'étais vraiment heureux quand nous avons quitté la zone cette nuit-là.
Non, mais ça brasse.
En tout cas, moi, je suggérerais à ce gars-là de changer de job, là.
Oui! En fait, il attire que les malheurs.
Ah, Barnouche, ça n'a pas l'air facile, ces journées.
Si tu vois que c'est lui qui est à la guérite en arrivant, tu fais « Non, retourne, il va se passer de quoi? De... tu vas te perdre. Bon, retourne chez vous. Va pas faire de hiking cette journée-là. »
Non, mais sérieux, je sais qu'il arrive des affaires vraiment bizarres de même dans le bois pour vrai.
Oui, à une certaine échelle, c'est sûr. Là, si tu vis dans une région où tu dois faire des sauvetages régulièrement, parce qu'il y en a des régions comme ça,
ben oui.
Tu dois avoir des vertes et des pommures. Là. J'habitais à Banff un hiver de temps, puis je veux dire, il y avait une escouade dédiée à sauver les gens qui vont faire de l'escalade sans équipement et sans compétences.
Oui, c'est ça, exactement. Ben oui, il y a toujours dans la gang,
il y avait une gang qui était allée monter. C'est même pas la plus haute montagne. Ils sont allés faire du moche sur le sommet de la montagne en pleine nuit. C'est pas protégé. Puis là, sur la route du retour, les jeunes redescendaient. La dernière, au bout de la ligne, a glissé, tombant en bas de la falaise. Puis ils s'en sont rendus compte juste en bas.
Fait que, c'est des bons amis. Ils sont des mauvais amis, là.
Oui, c'est ça, exactement. C'est comme, voyons. Eh oui, Céline, ça fait une demi-heure qu'on jase pas avec
elle. Oups! Elle a glissé.
Exact.
Non, puis c'est sûr que dans les parcs comme ça, ça doit arriver toutes sortes d'histoires. Là.
Oui, puis de toute façon, eux autres doivent faire comme, ah oui, ce gang-là, là, on va les garder à l'œil, c'est clair que ça sent mauvais. Là, t'sais. Pas équipés, qui pensent qu'ils sont capables. T'sais. Ou genre ça, t'sais, des gens qui n'ont jamais fait de hiking dans leur vie, ils arrivent avec le petit espadrille Puma, puis ils font, ben oui, ils vont être capables de monter en montagne sans problème.
Je peux pas les juger. J'ai failli mourir trois fois dans l'Ouest dans des circonstances comme ça.
Tu vois. Okay.
Une fois bouffé par des ours, puis deux fois avoir escaladé sans équipement sur des parois comme ça. Puis faire « Ah ouais, c'est dans la merde. » Oh non, quatre fois! Mes chums de gars étaient écœurés que je parte tout le temps escalader. J'aime ça grimper. Il était curieux de me voir escalader parce qu'il avait vraiment peur pour ma vie. Puis là, un moment donné, il m'avait chicané.
Tu m'étonnes.
Il m'avait vraiment chicané, mais bon, j'en faisais juste à ma tête. Fait que cette journée-là, juste après qu'il m'ait chicané, un moment donné, il se retourne, j'étais plus là. Puis j'étais déjà à mi-chemin dans la montagne. Puis rendu au sommet, dans les herbes hautes, j'entends un serpent sonnette à peu près 6 mètres de moi. Là, je suis comme, ah, tabarnak. Fait que là, j'arrête de bouger. Je fais comme, qu'est-ce que je fais? Là, soudainement, je le réentends. À 2 mètres de moi, c'était à pic comme ça, là. Je l'ai descendu en courant comme ça.
T'as défié la gravité.
Je sais pas comment j'ai fait pour courir sur une paroi aussi à pic, mais je l'ai fait, puis j'ai survécu. Mais en tout cas, j'aime ça me mettre dans le trouble, je pense.
mais tu sais, on parle les forêts, tout ça, mais tu sais, c'est tellement grand, il y a tellement d'endroits dans des forêts qu'on n'est jamais allé.
Non, c'est ça.
Tu sais, il pourrait y avoir à peu près n'importe quoi. T'sais, moi, je viens de Charlevoix. Puis, naturellement, tu sais, à chaque fois que je regarde ça, je suis comme, hey, man, on n'est jamais allé jusque-là. Il pourrait y avoir quelque chose qu'on n'a jamais. Tu sais, quand on dit, ah, l'océan, on n'est pas allé jusqu'au fond, il y a encore plein de bébites qu'on découvre d'année en année. Ça ferait probablement la même chose si on était catapulté en plein milieu d'une forêt où on n'a jamais eu accès.
Ah, définitivement.
Tu sais, c'est sûr que quand on est dans nos petits sentiers, on est habitué d'être là, mais si on était vraiment en plein milieu d'une vraie forêt où personne n'a mis les pieds, on serait peut-être surpris. C'est peut-être qu'il y en a des familles de Bigfoot, là. On serait peut-être heureux de les rencontrer, mais oui.
Ceux qui sont apprivoisables. T'sais, imagine comment ça doit être incroyable, les premiers qui ont découvert, mettons, un temple maya. Tu marches dans le bois, pendant des jours, puis soudainement, il y a quelque chose. Oh,
tu défriches, tout à coup, tu tombes sur quelque chose.
Wow, ça doit être quelque chose.
Écoute, c'est drôle que tu dises ça. T'sais, moi, je fais de la photo amateur par plaisir de l'urbex et du rurex, c'est-à-dire visiter des lieux abandonnés en ville et en campagne.
Malade!
Puis, à un moment donné, je suis dans Charlevoix, puis je fais comme, hey, on prend un sentier, tout ça, puis finalement, il n'y a comme plus de sentier, mais moi, je suis téméraire, j'aime ça, on continue. Et là, à un moment donné, from fucking nowhere, il y a une petite chapelle. Plein milieu de rien. Après, c'est en 1000 mètres, il ne reste pas grand-chose. On ne peut même pas rentrer dedans parce qu'on se dit, c'est sûr que le toit va finir par me tomber sur la tête. Et là, tout le long, c'est comme, mais comment est-ce qu'une petite chapelle fait pour être là? Je veux dire, probablement qu'il y avait un sentier à l'origine puis qu'à un moment donné, la nature a refait sa job puis elle a fermé. Mais c'est comme, mais qui était là? Puis là, en revenant...
Ça aussi, c'est l'histoire, là.
Exactement.
Qui a fait une chapelle là?
Moi, ma grand-mère a 102 ans, fait qu'elle a vécu tout le long dans Charlevoix, fait qu'elle connaît quand même pas mal de spots, tu sais. Puis là, je disais à ma famille, hey, on a trouvé ça, ça dit quelque chose à quelqu'un? Et là, tout le monde rit de moi. Ils font comme, ben voyons donc une chapelle. Personne n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être.
Ah, c'est les francs-maçons.
Vous savez que ça venait... Exactement, exactement. Mais tout ça pour dire que c'est ça. T'sais, si on se promène un peu, on pourrait découvrir des affaires vraiment plus surprenantes. Pas toujours des trucs surnaturels, mais tu sais, il y a des affaires comme ça, c'est ça. Ou tu fais comme, oh, qu'est-ce que ça calisse ici, ça?
Oui, mais trouver des choses qui n'ont pas d'affaires là.
Oui, exactement. Puis là, tu te dis tout le temps, ah, c'est-tu la personne qui ne devait pas trouver ça, moi?
Ouais, c'est ça que j'allais dire. Des fois, ce n'est pas nécessairement quelque chose que tu trouves. Des fois, c'est quelqu'un, puis il ne fallait pas.
Exact, exactement, exactement. Ben, écoute, une autre petite anecdote rapidement. Moi, je suis allé faire de la photo à Détroit. Tu sais, Détroit, c'est une ville qui est tombée en faillite.
Wow.
Puis quand tu vas à Détroit, là, imaginez-vous Walking Dead. Là, puis j'exagère même pas.
Oh,
il y a
oui.
Il y a des quartiers entiers où toutes les maisons sont complètement abandonnées. Puis généralement, à l'intérieur, tout est là parce que souvent les gens ont quitté pendant la nuit parce que c'est la banque allait reprendre tout, fait qu'ils se sont sauvés. Bref, c'est assez hallucinant à voir. Puis à un moment donné, on visite quelques églises, tout ça, puis on avait spoté une. Puis honnêtement, il faut que tu fasses attention à Détroit parce qu'il y a des endroits aussi un peu plus louches.
Oui, c'est ça, là.
Et on finit par rentrer dans l'église et là, deux imbéciles, deux petits Québécois gnochons avec le Nikon dans le cou qui montent les escaliers et on arrive face à face avec quatre gars qui sont en train de se piquer, quatre drogués. Et là, on fige, on fait ça y est, c'est ici que nous, on va finir nos vies.
So long. Vont...
Exactement. Finalement, les gars nous regardent, on les regarde. Il n'y a pas d'échange de mots, on recule, on descend.
Mais comme des cartoons.
Exactement. Mais une fois sorti de là, tu fais « Ouais, c'était peut-être pas super intelligent ce qu'on a fait là. » Ça veut pas dire qu'il nous aurait tués, là, mais tu fais comme « Ouais, tiens. » Peut-être qu'on a joué un petit peu trop avec le feu puis qu'on est allé sur un terrain qui nous appartient pas pantoute.
Mais déjà, juste quand tu as dit « Je suis allé faire de l'urbex à Détroit », moi, tout de suite, j'ai fait « Hein? »
Oh,
ouais, j'avoue, c'est.
Ça, moi.
Écoute, puis, nous, on est allés 4 jours, puis le premier jour, on avait pris un guide. Ça a l'air niaiseux à dire, mais il y a plein de gens qui font ça. Ça veut dire qu'on était 7-8 photographes, puis ils nous amenaient dans des endroits. Puis le gars nous avait dit tel endroit, tu vas pas là le soir, tel endroit, tu vas pas là du tout, même dans le jour, parce que si tu vas là-bas, tu tombes sur un deal de drogue, whatever, même si tu appelles la police, ils n'iront pas te chercher. Parce que c'est des endroits où même la police ne va plus.
Ça, c'est fucké.
Ouais, puis tu sais, moi, je suis assez téméraire. Je ne suis pas très peureux. Mais c'est ça, il y a des moments où j'ai fait comme, ouais, là, on est en zone d'inconfort, mais ça vaut-tu la peine d'aller faire de la photo là? Pas nécessairement. Allons ailleurs. T'sais.
Ça fait atteindre ta limite.
Ouais, exactement.
Il y a d'autres affaires qui sont terrifiantes.
Oui.
Rire. Ça nous mène à notre prochaine histoire.
La vie était finie?
Oui,
la vie était finie, Alex?
Oui, j'ai assez abusé de mon garde forestier.
Mais j'ai adoré ça. Merci. Alors, vas-y, Simon.
Cette histoire s'intitule « Ma grand-mère habite en dessous de la maison ». Ça a été écrit par Showing Skin.
Oh, OK.
Oh.
Durant mon enfance, j'ai passé plusieurs étés à la maison de ma grand-mère, à l'ouest de Cap-Breton. La forêt était pittoresque et les plaines étaient d'un vert vibrant. Elle habitait dans une vieille maison de 2 étages qui avait été construite dans les années 50. Drôlement, la maison donnait l'impression de ne pas être à sa place. Mes étés passés là-bas font partie des plus beaux moments de ma vie. Il n'y avait pas d'enfants avec qui jouer sur des kilomètres, mais je me faisais mon propre plaisir en courant dans l'herbe. Hein? Des fois, ça prend pas grand-chose.
Ben oui, exact.
Fait que ce qu'on a...
Courir dans l'herbe.
Je me souviens encore de l'odeur des muffins de grand-maman et du son des cigales de la brise d'été. Je me souviens encore du visage de grand-mère qui m'épiait sous les marches du porche d'entrée, en souriant de toutes ses dents et en me disant qu'il était temps de rentrer. Il y avait énormément de règles à la maison de grand-mère. Il ne fallait pas courir avec des souliers à l'intérieur. Il ne fallait pas non plus jouer dans le jardin. D'autres règles faisaient moins de sens, à mon avis, comme verrouiller toutes les fenêtres, même si on habitait à des kilomètres de la civilisation, devoir fermer la télévision à 20 heures, être au lit à 21 heures. C'était une des pires restrictions. Il y avait aussi des règles non écrites, hein, comme ne pas dormir avec nos jambes ou nos bras hors du lit, vérifier les portes et les fenêtres 2 fois, ne pas fermer les rideaux de douche complètement, ne pas se cacher
sous
le lit ou dans les garde-robes.
Hey, c'était le fun, chez grand-maman!
C'est pour ça qu'elle courait dans l'herbe, c'est tout ce qui restait.
Mais oui, c'est ça, elle n'avait pas le choix.
Même son étrange, malgré son étrangeté, grand-mère était grandement appréciée. Elle était petite, ses cheveux étaient longs et brillaient d'une teinte argentée qui reflétait au clair de lune. Oh. Elle avait l'habitude de les garder attachés en chignon, ce qui faisait en sorte que ses rides étaient plus apparentes.
Bon.
On garde ça comme conseil.
C'est de l'âgisme, ça.
Ben oui. Grand-père avait l'habitude de passer beaucoup de temps dans l'Ouest, alors ses visites étaient rares, mais agréables. La grand-mère disait qu'elle aimait m'avoir près d'elle l'été quand grand-père partait parce qu'elle se sentait utile. En y repensant bien, je pense qu'elle se sentait seule. Je vais essayer de raconter les événements de mon enfance en ordre chronologique, mais j'ai oublié certains moments. Ma grand-mère habitait en dessous de la maison. Je ne l'ai jamais vu aller au lit, pas une seule fois. Je ne me suis jamais posé trop de questions. De toute manière, j'étais grand et j'étais capable de dormir seul en faisant attention de bien couvrir mes orteils et mes doigts sous les couvertures. C'est arrivé à quelques reprises qu'elle venait me rendre visite par la fenêtre de ma chambre. Elle restait debout dans son jardin de fleurs qui entourait la maison et me chuchotait des mots de l'autre côté de la fenêtre.
Ben voyons!
Si que j'aille ça, moi!
Hey, moi aussi! Oh! Bon, fait, les grands-mères, c'est sûr, supposé être fines. Fait que quand ils sont épeurantes, demain, on dirait que c'est doublement épeurant.
Oui, oui. Vraiment. Ouh. Puis on dirait que ce serait moins épeurant si c'était un enfant ou un membre de la famille.
Ouais, c'est jeune, ça.
Un débat que j'ai parti aux petites frousses. Qu'est-ce qui fait plus peur? Un enfant qui fait peur, un enfant dans un film d'horreur ou une personne âgée? Puis pour moi, c'est vraiment une personne âgée. Puis je devrais pas dire ça parce que je suis préposée aux bénéficiaires. Mais je trouve que les personnes âgées me font vraiment plus peur dans un contexte d'horreur.
Je suis d'accord.
Ouais, je suis d'accord. Merci. Aussi.
Merci de m'encourager. Je vais gagner ce débat-là.
Oui, on va gagner.
Ben, regarde, prouvons-nous-le en poursuivant l'histoire.
Exactement.
Ouh, allons-y.
Donc, elle vient leur rendre visite à la fenêtre durant la nuit. Le visage de grand-mère était appuyé contre la vitre et elle souriait. Ses mains étaient appuyées de chaque côté de son visage pour mieux voir à l'intérieur. La fenêtre était assez haute pour que je voie juste le haut du corps, mais je pouvais voir qu'elle ne portait aucun vêtement.
La mixité, la chose la plus effrayante.
Peux-tu ouvrir la porte pour moi? C'est un peu frisquet dehors, me disait-elle doucement. Ses lèvres bougeaient à peine. Je me mettais à rire. Voyons, grand-maman, t'as une clé pour rentrer. Utilise-la avant d'attraper froid. Elle ne me répondait pas. Son sourire ne s'estompait pas non plus, pas même une seconde. Elle restait debout dans le jardin de fleurs, quelque chose que je n'avais pas le droit de faire. Elle ne me disait rien directement, mais dès que je me détournais de la fenêtre, elle recommençait à me chuchoter des choses. Parfois, j'étais incapable de comprendre ce qu'elle disait tant ces mots ne faisaient aucun sens. Peu importe, je lui tournais souvent le dos. Ça devenait inconfortable quand je lui faisais face. C'est devenu une routine. Je restais étendu dans mon lit à l'écouter marmonner jusqu'à ce que je m'endorme. Le lendemain matin, elle se trouvait dans la cuisine à faire le déjeuner comme si de rien n'était. Quand j'essayais de la confronter, il disait que j'inventais des histoires, que j'avais une imagination débordante, le genre de choses que les adultes répliquent aux enfants. J'ai fini par arrêter de lui en parler et ses visites nocturnes sont devenues comme un jeu entre nous.
Mmh!
En tout cas, pas le genre de jeu qui me tenterait. C'est comme, t'es drôle, mais là, j'essaie de dormir.
Ouais, c'est ça!
Oublie pas de venir à ma fenêtre ce soir!
Ben oui, on dirait qu'elle accepte un peu trop facilement. Là,
ouais, c'est ça!
À toutes les nuits, ma grand-mère venait à ma fenêtre et me demandait de la laisser rentrer. Parfois, elle disait que j'étais un gentil garçon, parfois que j'étais vilain. J'ai vu son sourire grotesque s'atténuer une fois, une seule fois. Je la suppliais de partir et de me laisser dormir tellement j'étais trop épuisé pour jouer. Une fois, j'ai même poussé un cri pour qu'elle me laisse tranquille. Elle l'a fait pendant quelques jours, mais ça n'a pas duré longtemps.
Je t'ai dit de me laisser tranquille.
Ah non, ça, c'est le fils. Je pas la grand-mère, c'était pas.
Je t'ai
dit de me laisser tranquille et je voulais plus jouer. Entre à l'intérieur et va dormir. Son sourire s'est transformé en grimace. Ses sourcils se sont froncés. Son regard m'ont rendu mal à l'aise. Cette nuit-là, elle n'a pas chuchoté. Je me suis retourné vers la fenêtre à quelques reprises. Et elle était toujours là à me fixer. Je ne me souviens pas comment j'ai fait pour trouver le sommeil, mais à mon réveil, j'ai senti l'odeur de bacon et j'entendais grand-mère fredonner dans la cuisine. Une nuit, j'ai décidé de laisser la porte d'entrée déverrouillée. J'ai attendu jusqu'à ce que grand-mère aille se coucher. Je me suis dirigé jusqu'à la porte d'entrée et j'ai déverrouillé la serrure. Là, je me suis précipité vers ma chambre et je me suis caché sous les couvertures et j'ai attendu que grand-mère débute son petit jeu. Mais cette nuit-là, elle n'est pas venue à ma fenêtre. Elle s'est plutôt présentée à la porte de ma chambre. Je pouvais l'entendre marcher. Attends. Je pouvais l'entendre marcher à quatre pattes en se traînant sur le plancher. Cette nuit-là, je l'ai entendu chuchoter sous mon lit. Je pouvais l'entendre marmonner même si mon oreille était appuyée contre l'oreiller, ma tête sous la couette. J'ai faim, je peux te sentir. Je voulais plus jouer à ce petit jeu. Je peux sentir ton foie. Le désespoir que je ressentais était inexplicable. Je pouvais appeler personne à l'aide. On était seul au milieu de nulle part. Je vais entrer en toi, petit sac de merde.
Ben voyons!
Ben là, ça, c'est le texte, hein? C'est pas le livre. Ça me surprend un peu, là. Je me souviens plus de tout ce qu'elle a dit cette nuit-là. Mon cerveau en a bloqué beaucoup. J'ai ouvert les yeux une fois, juste une petite craque, et j'ai vu les yeux de grand-mère en train de me fixer au bout du lit. J'étais paralysé par la peur. Je me suis réveillé le lendemain et heureusement, grand-mère n'était plus dans la chambre. Hey, petite tabarnouche. Il y a quelqu'un qui te regarde au bout du lit, tu réussis à t'endormir.
Ben oui, c'est impossible. Elle était vraiment crevée.
Ça n'a pas de bon sens. Quand je suis allé à la cuisine, elle m'a regardé avec un air curieux. Je ne sais pas si elle avait remarqué que la porte d'entrée était déverrouillée ce matin-là. Je sais que ça lui a brisé le cœur quand je lui ai annoncé que je souhaitais retourner à la maison. À partir de ce jour et jusqu'à mon départ, j'ai toujours vérifié que la porte d'entrée de la maison de grand-mère était bien verrouillée. Elle m'a visité fréquemment par la suite. Rien ne sortait de l'ordinaire. Ses visites nocturnes étaient... OK, elle m'a visité normalement par la suite. Rien ne sortait de l'ordinaire. Ses visites nocturnes étaient terminées. Quelques années plus tard, mon grand-père a reçu le diagnostic d'Alzheimer. Grand-maman s'est occupée de lui jusqu'à son décès. Puis, ça a été son tour. J'ai accompagné ma mère dans la maison de mes grands-parents. On l'a vidée et nettoyée ensemble. Pendant qu'on ramassait les derniers trucs, ma mère m'a dit en soupirant, « J'ai déjà pensé que ta grand-mère avait l'Alzheimer. Il y a des moments où je doutais, comme lorsqu'elle perdait ses clés, ce genre de choses. Je me suis soudainement senti plus léger. Est-ce que la maladie justifiait toutes les bizarreries dont j'avais été témoin?
Non! Non!
Non! Non!
Marcher à quatre pattes la nuit en rampant, ben oui.
Va manger ton foie.
Ben oui. Ma mère m'a ensuite demandé de l'aide pour ranger les dernières boîtes dans la voiture. Je me suis installé du côté passager et j'ai regardé la maison de mes grands-parents une dernière fois. C'était l'endroit où j'avais passé des moments merveilleux avec ma grand-maman, avec ma grand-mère préférée. Le seul problème, c'est que je me demande comment ça se fait que j'ai vu me fixer sous les marches du porche les grands yeux de ma grand-mère qui affichaient un sourire beaucoup trop grand.
J'adore cette histoire-là. J'adore ça.
Ouais, ça, c'est vrai que c'est terrifiant, ces affaires-là.
Ouais, puis c'est vraiment écrit à la façon, on a l'impression que c'est une vraie anecdote. T'sais, on n'est pas, ouais. C'est pas si littéraire que ça, puis c'est ça qui rajoute à l'affaire épeurante. Mais c'est vrai que, tu sais, on disait tantôt, c'est vrai que des personnes âgées dans des films, dans le contexte des films d'horreur, là, pas dans les films de tous les jours, maudit que c'était épeurant. Tu sais, je sais pas si vous vous souvenez de le nom, le titre m'échappe, là, mais le
la
film
visite?
De M. Oui, exactement, de M. Night Shyamalan, où à la fin, on se rend compte que ces deux hosties de fous qui habitent sont pas les vrais grands-parents.
Ouais, c'est ça.
Récemment, dans Ex de Ty West, la vieille madame qui habite la maison, on se fait comme, mais c'est tellement creepy, ça n'a pas de bon sens.
Mais il y a un film qui est sorti aussi dernièrement, je ne l'ai pas vu encore, je ne peux pas en juger, mais le film s'appelle Old People.
Oh, oui.
Le résumé, c'est une femme qui s'en va rendre visite à un membre
J'ai adoré ça.
Oui? Ah oui, OK.
Puis, un peu dans le même sens, à un moment donné, cette femme-là va avec son fils dans la maison de personnes âgées où son père réside. Et là, toutes les personnes... Ah, tu vas aimer ça, Joanie, tu vas penser à ça quand tu vas aller travailler.
J'ai hâte.
Toutes les personnes âgées sont assises dans le salon, mais les fixent.
Oh.
C'est épeurant, là, vraiment beaucoup.
Mais d'ailleurs, moi, j'ai... Ben, comme toi, Joanie, moi, j'ai travaillé dans des résidences de personnes âgées un été de temps. Je faisais du remplacement un peu partout dans les résidences à Montréal. J'avais le goût de changer de job pour un temps. Puis moi, je pense, moi, ce que j'ai remarqué dans ce temps-là, puis ce que je pense qui nous fait peur des vieux, c'est la même chose avec la maladie mentale. Mettons, je ne dis pas que ça arrive très souvent, mais mettons que tu vas visiter un hôpital psychiatrique, c'est le même sentiment, je pense, c'est de ne pas savoir comment ces personnes-là peuvent réagir.
Ouais, c'est ça.
Tu vas voir ta grand-mère, tu n'as pas peur, mais tu vas dans une résidence où il pourrait y avoir des vieux un peu plus maganés puis délirants. Mais des fois, le délire, ça fait réagir bizarrement. Puis là, tu es comme, elle est donc bien creepy, elle. Mais ben oui, mais c'est sûr, elle est vieille à 140 ans.
Ouais, c'est ça.
C'est sûr que c'est pas tout clair ce qu'elle fait, tu sais. Mais c'est ça, c'est le délire. Moi, j'y habitais même à... Plus jeune, il y avait beaucoup de résidences de... Comment qu'ils appellent ça? La désinstitutionnalisation, là, des malades mentaux légers qui peuvent relativement vivre en société.
Tu te trouves dans une maison avec d'autres qui est géré par quelqu'un. Là.
Exactement. Ben, il va te dire, quand on les croisait sur le coin, des fois, c'était terrifiant. Là. Ils n'étaient pas tout fins, ils n'étaient pas tout... c'est ça. Je pense que c'est de ne pas savoir ce qui,
mais t'as raison,
comment ils peuvent réagir.
Puis dans nos têtes, grands-parents égale personne super gentille qui ont tout le temps des muffins à la table puis une dingue qui pue dans le four. Fait que dès qu'on sort un peu de ça, on fait « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? »
Oui, mais en même temps, c'est un peu la même chose avec un enfant parce qu'on dit « Ah, c'est vulnérable. » Mais je pense que les deux, c'est pareil d'une manière ou d'une autre. Oh. C'est que c'est deux personnes vulnérables qui pourraient jamais nous vouloir de mal.
Moi, j'adore les enfants qui tuent, effectivement.
J'adore les enfants qui tuent!
Ah ouais, ben des vieux films là, comme Les Tueurs de l'éclipse. Là. Ouais. Trois enfants de familles différentes naissent le même jour à la même heure lors d'une éclipse. Et le jour de leur 10e anniversaire, ils se mettent à tuer tout le monde.
Mon Dieu! Ah okay. Ouais.
Ça, c'est un qui est bien fait aussi. C'est un film anglais de Children.
Oui.
Avec les familles trois familles qui se regroupent pour le temps des fêtes dans une maison, puis les enfants ont comme une espèce de virus. Mais ça aussi, c'est freakant. Puis ça aussi, tu sais, tu te retrouves un peu à te battre contre tes propres enfants. Ce qui n'est pas super le fun.
Une situation malaisante.
Oui, exactement.
Qui peut très bien s'expliquer.
C'est pour ça que je n'ai pas d'enfants.
Mais voilà, terrifiant. Moi non plus, exactement.
Pas trop très terrifiant. Là.
Mais pour l'instant, je me contiens au chat.
Moi aussi. Mais c'est vraiment bien écrit, cette nouvelle-là. Vraiment. Ouais, vraiment super bien écrite. On a vraiment l'impression que c'est une anecdote personnelle. Tu sais.
Ouais, c'est ça. Ouais. On est dans la simplicité.
Ouais.
Ouais. C'était quel votre préféré?
Moi, je les aime. Ben, je pense que celle de Simon, c'est ma préférée parce que. On a l'impression que c'est une vraie anecdote vécue. Fait qu'on dirait que ça rajoute au... Moi, ça me fait tout le temps un peu plus peur quand j'ai l'impression que ça pourrait être vrai, tu sais.
Mmh. Ben, tu vois, le Zipper, c'était le fun, mais ça faisait plus comme un épisode de... Ben, sauf le punch était hot, là, mais ça faisait quand même plus comme une histoire de l'émission Fais-moi peur, disons.
Ouais, exact.
C'était plus léger, chair de poule. On est plus dans... c'était plus cartoonesque, le Zip, tu sais, on peut pas y croire. Mais j'aime ça quand c'est plus crédible. C'est le fun, les films de monstres, mais c'est difficile à faire un film de monstres pour qu'il soit crédible.
Oui, c'est vrai.
Il y a une différence entre triper sur le monstre, le fun, parce que tu vois le Zip, puis triper parce que le monstre, il te terrifie et il est crédible. T'sais. Mais au final, j'aime ça, les histoires comme la grand-mère, comme les histoires de disparition qu'Alex.
Oui.
En deuxième place, moi, je renchérirais avec l'enfant qui disparaît dans l'arbre.
Ah,
oui, moi aussi, qu'on n'a toujours pas trouvé d'ailleurs.
Non.
Mais moi, ce que j'aime cette histoire-là.
Puis moi, ce que j'aime dans celle de Simon, c'est que, t'sais, oui, c'est exagéré, mais en même temps, il y a quelque chose de crédible dans le sens où. Passer des étés chez sa grand-mère. T'sais, on a tous un peu vécu ça, ou du moins.
Oui, c'est familier.
La référence, c'est ça. La référence, c'est clair.
Fait qu'on dit que c'est dormir encore plus... Non, fini, excuse-moi.
Oui. Non, vas-y.
Mais dormir en campagne aussi, quand j'étais petit, je veux dire, aller au chalet, ce n'était que du réconfort, mais la fenêtre de ma chambre, moi, au chalet familial, elle donnait direct sur la forêt, puis on avait une espèce de gros spotlight sur le terrain pour éclairer, parce que le terrain était grand. Puis, fait que moi, j'avais juste de l'autre côté de la maison, la lueur qui éclairait les arbres, qui se perdait dans les ténèbres. Moi, ma fenêtre, là, quand j'étais petit, une chance que je tripais horreur parce que c'était terrifiant, là.
T'avais pas un petit store ou un petit rideau pour, tu sais, cacher cette vue?
Oui, ben oui, bien entendu, mais c'est ça, là, j'aurais pas pu dormir les fenêtres, le rideau ouvert. Mm. C'est too much, là. Je veux dire qu'à 5 ans, à 10 ans, c'était le fun. À 5 ans, no way, là.
Non, c'est clair.
Mais même s'il y a un star, tu le sais ce qu'il y a l'autre côté. Tu le sais à quoi ça ressemble.
Non, justement, Alex, tu le sais pas!
Mon Dieu! Mais c'est ma pire peur de, genre, regarder dans une fenêtre le soir, là, puis qu'il y a quelqu'un. Tu sais, moi, je me lève très tôt le matin pour travailler, puis il fait encore noir, puis j'ai peur qu'il y a quelqu'un dans ma fenêtre, peu importe.
Ben imagine quand t'es au deuxième.
Oui, je le sais. Hey, ça, c'est... Ah, mon Dieu. Ça, c'est... Oh, mon Dieu, non. J'en perds mes mots. Je brûle la maison. On quitte tout de suite. Ça marche pas.
Il y a une affaire, moi, que... Il y a pire. Hein? Il y a toujours pire. Mais dans la même veine, j'avais déjà parlé de ça dans Ars Moriendi, mais ça fait longtemps. Mais tu sais, quand t'as un intrus qui vit sous ton toit puis tu le sais pas.
Oui. Ah oui.
Oui.
Je me souviens d'un cas où ce que le gars, au bout de... Voyons, c'est bien, il y a quelque chose, il y a un mauvais feeling, puis à un moment donné, il a découvert que ça faisait 3 semaines, peut-être plus, je ne me souviens pas exactement des détails, mais ça faisait plusieurs semaines qu'une femme sans-abri vivait dans son garde-robe.
Oh,
et elle ne se faisait pas pogner en étant extrêmement propre, donc il n'y avait pas d'odeur, elle ne se laissait pas traîner, elle se cachait sur la tablette en haut dans le garde-robe, elle se couchait là.
Ben voyons!
Oui. Elle passait toute la journée là, puis dès qu'elle s'en allait travailler, là, elle sortait et elle faisait ses affaires. Le gars, il commençait à avoir des doutes quand sa bouffe, elle disparaissait.
Mais hey, imagine, tu fais pendant tout ce temps-là, elle était chez nous. Tu sais, mettons, là, tu dors, elle en profite pour aller se faire un sandwich. Ah!
Oh non, c'est, hey, ça coûte cher, j'ai des frissons, moi, ça.
Ah oui, moi aussi. C'est sûr et certain que tu freaks, là. Puis en fait, après ça, tu fais plus confiance à rien.
Ben c'est ça, je suis en train de me dire. Tu dis, tu sais, comment tu veux te sentir à l'aise chez vous, par après, t'as pas le choix de déménager. T'es, ça doit être terrible, là, ça remet de ça.
Tu regardes partout, là, t'enlèves les cailles, voir s'il y a pas quelque chose en arrière, là.
Ah, il te faut un loft, puis tu peux avoir un garde-manger.
Toutes tes murs sont en béton, là.
Oui, oui, exactement. Hey. Ou sinon, tu fais la tournée à chaque soir, t'ouvres tout avant d'aller te coucher.
Hey, puis en même temps, là, c'est comme un rêve que j'ai d'acheter un jour une maison puis de découvrir une porte secrète scellée.
Oh mon Dieu!
Oh, j'avais ça, pas ça là, pareil.
Ça, c'est un rêve. Peu importe ce qu'il y a derrière. Là.
J'avais une amie qui, sa famille, s'était acheté une maison puis dans chaque garde-robe de la maison, il y avait des espèces de petites poches avec de la poudre dedans. Dans chaque garde-robe, c'était pas de la lavande quoi de même pour l'odeur. Là. C'était comme de la cendre qu'il avait mis dans les garde-robes. Là, il y avait
des
dans
la maison, c'est mystique, sûr. Là,
ouais. Je sais pas.
C'était peut-être la cendre de cadavre de sacrifié, hein?
Il y a de quoi, en tout cas.
Si l'émission 450 Chemin du Golf a eu plus qu'une saison, tout est possible.
Tout est possible.
Voyons! C'était tellement gratuit. J'ai fou
aimé
ça, moi.
Ah bon, tu vois?
Bon, tu vois, voilà, tout est possible.
Mais je l'ai aimé tard. Je l'ai aimé quand ça jouait sur Prise 2. Je ne l'ai pas aimé jeune. Tu comprends?
Mais c'est avec du cynisme, là, 15 ans après, ça, c'est drôle.
Ça vieillit comme du bon vin.
Ouais, ça doit.
Elle devient plus râpeux, par exemple.
Oui. Il y a des dépôts. Voilà. Oh mon Dieu. Bon, ben écoutez, je vous retiens pas plus longtemps. J'ai adoré faire ça avec vous.
Ah, c'est ça, là, tu nous abandonnes tout seul avec nos peurs, à cette heure.
Ouais, c'est ça.
Le site, là.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.